Il suo magazine.
E la proposta? Occupazione e la risposta. C'est sous ce slogan que des dizaines d'universités, des dizaines d'écoles secondaires ont été occupées ces dernières semaines en Italie pour proposer contre bradage et la privatisation de l'enseignement secondaire et universitaire en Italie. Et aujourd'hui, 3 février, des dizaines de milliers de manifestants se retrouvent à Rome pour manifester dans le même sens. Les voilà qui arrivent, possédés par un détachement de police anti-émeute. Des manifestants joyeux qui ont au grand maximum une moyenne d'âge de 18 ans, souvent peinturulés, des slogans « Liberté, culture, imagination, ensemble contre la privatisation ». No al secuestro de la cultura.
Contro la privatizzazione, contro il tentativo di privatizzare l'università e le scuole, contro insomma, tutti i tentativi che stanno facendo per cercare di escludere moltissima gente meno abbiente allo studio, insomma, allo studio libero.
Perché c'è sempre la crisi nelle università italiane?
Sì, c'è grossa crisi e
disoccupazione dopo.
Sì, non ci stanno grossi sbocchi professionali, non ci stanno, insomma.
Allora il potere cerca di stringere la popolazione nell'università.
Sì, e poi insomma privatizzando dà la possibilità solo a certa gente di poter usufruire meglio dell'università. Cioè anche i sbocchi dopo sono pochi, insomma, ecco.
Fondamentalmente una rivendicazione corporativa di questo movimento è più larga?
No, io ecco, sono contrario a considerarla una cosa corporativa, perché gli studenti stanno rivendicando delle cose che, a parte poi tutte quante le cose che stanno succedendo anche tra i ferrovieri, anche nell'industria, quindi non è una rivendicazione corporativa, ma gli studenti sono rivolti insomma a tutta la società civile in Italia, a tutta la popolazione che loro sono figli dei lavoratori, tutti quanti.
E gli studenti si sentono identificati con gli altri lotti degli operai, eccetera?
Io penso di sì. E vabbè, hanno delle caratteristiche proprie, perché le lotte giovanili sono particolari, i movimenti giovanili, però io penso che ci sia una coscienza che l'attacco è generale, un po' verso i lavoratori e verso gli studenti, e quindi loro lo sanno, è una coscienza che c'è.
Tu sei un'università o...?
No, io sono disoccupato.
Disoccupato?
Disoccupato. Sì. Ho finito il servizio militare adesso.
E questo movimento sta organizzato di gruppi politici anche nelle
lui è studente, parli sì. Con lui, parli con lui, è studente.
Sì. Parlate un po' francese per caso, no? Ma posso dire che è il tema fondamentale di queste mobilitazioni?
Sì, allora dunque, il tema fondamentale di queste mobilitazioni sta nell'inadeguatezza delle strutture scolastiche, delle attività, dell'impossibilità di svolgere attività didattiche più approfondite. Per quanto riguarda l'università, sappiamo che comunque alcuni sanno che comunque in autunno, se non sbaglio, a Parigi, in Francia, ci sono state delle occupazioni nelle facoltà. In Italia si vuole introdurre il monopolio dei privati nell'università e subordinare la ricerca scientifica e non agli interessi dell'industria, che sponsorizzando dei progetti progetti a loro favorevoli egemonizzeranno la cultura italiana. Questo in sintesi.
Voi siete al liceo o all'università?
Al liceo. Questa è una manifestazione degli studenti dei licei. E con rappresentanze degli studenti universitari. Noi ovviamente come licei esprimiamo la nostra solidarietà alla battaglia degli universitari. Ovviamente anche noi premiamo per una maggiore democrazia all'interno delle scuole, perché gli studenti contino di più e contro i provvedimenti repressivi adottati in varie scuole dai presidi e dai professori, da alcuni professori.
Ma al livello del liceo, che sono le rivendicazioni? Allora. Non c'è privatizzazione a questo livello, sì?
No, dunque a livello dei licei non c'è privatizzazione, comunque le nostre rivendicazioni sono essenzialmente tre: contro l'introduzione dell'ora di religione nelle scuole italiane.
Religione?
Sì. Per una revisione dei decreti delegati, cioè dei decreti delegati delle persone che vengono elette nei consigli d'istituto, delle persone che vengono elette dagli studenti nei consigli d'istituto, ma che ormai non contano quasi più niente, perché la maggior parte dei rappresentanti al consiglio d'istituto sono professori e presidi, e quindi la presenza degli studenti è minoritaria e quindi è inutile. E poi per appunto una maggiore contro la carenza delle strutture delle scuole italiane, e vi sono delle palestre che non funzionano, dei laboratori assolutamente inadeguati. E queste in sintesi sono le rivendicazioni degli studenti.
Gli studenti si sentono queste mobilitazioni, mobilitazioni di sinistra? O spontanee o piuttosto corporative o non so.
Dunque queste mobilitazioni sono è una mobilitazione spontanea da parte degli studenti che deriva da una situazione intollerabile nelle scuole italiane, quindi è una mobilitazione spontanea. Comunque si caratterizza per una mobilitazione comunque di sinistra, antifascista, democratica, e che però allo stesso tempo è contro qualsiasi egemonizzazione, contro qualsiasi pressione dei partiti su questo movimento.
Presente nel liceo dei partiti politici parlamentari o extraparlamentari sono importanti nell'organizzazione dei...
Dunque diciamo che la presenza dei partiti non è evidente, e il movimento, gli studenti sono contrari a che si facciano giochi politici sopra la testa degli studenti e accordi fra i vari partiti, però ovviamente molti studenti aderiscono a delle organizzazioni, ma comunque a titolo personale. La mobilitazione degli studenti è una mobilitazione solamente degli studenti, partita dalle scuole e non dalle assemblee e non dai partiti.
Ma traduce una politizzazione del mondo studente, nuova politizzazione?
Sì, penso che rispetto ad alcuni anni fa, soprattutto rispetto all'ideologia dominante in Italia e penso anche nel resto d'Europa, nell'ideologia che faceva credere che gli studenti non si interessassero più di politica, non fossero interessati alla politica, non si interessassero dei problemi della società più in generale, questo movimento, queste battaglie, questo corteo dimostra dimostra che comunque c'è una nuova politicizzazione all'interno degli studenti. Sì.
Comme vous pouvez entendre, depuis mai 68, le rythme et le slogan de base n'a pas changé. On n'est toujours qu'un début, mais c'est déjà ça.
Donc, il me racontait le métier de comédien. Il était bien sûr actif au sein du théâtre mobile. Il m'a montré qu'est-ce que c'était qu'un comédien, comment ça marchait. Puis petit à petit, il m'a donné aussi l'envie d'avoir un œil plus ouvert, plus peut-être un petit peu plus connaisseur aussi. Moi, j'ai appris beaucoup avec Marcel Robert. Je lui dois beaucoup parce que j'ai aimé ces moments-là où il me racontait mille histoires qui lui étaient arrivées. Et voilà, de fil en aiguille, je suis un peu restée dans ce groupe théâtre. Et c'est un genre que j'ai toujours aimé, simplement par passion, comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, je suis restée parce que j'aime faire ça. Et puis je suis attachée, moi je suis restée, parce que j'ai été longtemps bénévole, maintenant effectivement, à mi-temps je suis salariée, parce que avec toutes les années, et depuis seulement 2 ans... Ou alors encore à l'époque, nous étions 3 pour programmer le théâtre. Maintenant, je me retrouve toute seule depuis 2 ans. Donc, moi, je peux pas vivre avec un mi-temps parce que j'ai pas d'autres ressources. Et donc, je dois travailler à plein temps. Alors, j'ai un autre travail à côté. Mais je suis seule à mi-temps pour m'occuper de ça. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Je crois que les gens, et encore aujourd'hui dans le comité, c'est quand même comme ça. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire que des gens, je me souviens très bien de Nelson, qui a été chargé de la communication. Il est arrivé il y a 4 ans, peut-être Nelson. Il est étudiant en architecture. Il va terminer l'année prochaine. Et puis, il est arrivé et disait, ah, moi, j'aime bien ce festival. Est-ce que je pourrais pas vous donner un coup de main? Oh ben sympa, ben oui, ben volontiers. Alors il a été factotum et puis l'homme a tout fait. Et puis notre secrétaire a accouché et il a remplacé notre secrétaire. Et puis ensuite, les 2 personnes qui s'occupaient de la promotion du festival ont eu d'autres charges. Et donc c'est Camille avec Nelson qui ont repris la promotion. Et donc ça se fait un peu comme ça. Des gens arrivent en disant, oh, mais moi j'ai envie, j'aime bien cette équipe, j'aime bien ce collectif. Je trouve que c'est bien de réaliser des choses ensemble. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent comme ça. Ils disent, ah ben moi ça m'intéresse, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis petit à petit s'intègre ou part. Et ça bouge et il y a des gens, si bien que dans le comité, moi je suis tout simplement la plus vieille à 44 ans. Faut le dire, il faut pas, hein, c'est comme ça.
Mais c'est vrai, quand tu dis 20 ans, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long, mais en tout cas, c'est riche d'aventure à entendre ce que tu racontes. Et c'est vrai que qu'une manifestation puisse donner l'occasion, comme tu viens de le raconter, à la fois de participer à une vie associative aussi bougeante que celle que tu viens de le dire, plus ensuite de découvertes artistiques, puisque tu pouvais être à la fois simple spectatrice pour devenir aujourd'hui programmatrice, avec toutes les découvertes et les apprentissages que ça implique, c'est quand même une sacrée belle aventure. Et effectivement, en 20 ans, c'est plein de rebondissements. Dominique, alors, au début, à la fois partie prenante, puisque tu dis théâtre de la Lune Rouge.
La Lune Rouge, ou bien j'ai aussi participé à des concerts du Bamboo Band, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Nous, on se rappelle, mais peut-être
pas
tout le
photo,
monde.
Je peux vous décrire la photo si vous voulez.
Avec Marcel Robert, décidément Marcel Robert.
Mais petit à petit, je sens qu'effectivement, il y a des noms qui vont ressortir, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est mieux que ce soit vous qui les fassiez découvrir parce qu'ils ont fait vraiment.
Mais disons, là, à cette époque, c'était vraiment complètement en tant que spectatrice et participante, mais sans vraiment avoir pris du tout part à l'organisation du festival, au pourquoi ce festival.
Parce que tu aimais le théâtre, parce que tu aimais la musique, que tu t'es retrouvée
dedans.
J'aimais
la musique, en fait. Et la Lune Rouge, j'y ai joué parce qu'à l'époque, mon copain était musicien dans la Lune Rouge. Et puis, que, voilà, je crois que c'était uniquement ça. C'était le début, pour moi, c'est donc... C'est très lié à la musique. Parce que finalement, le jour où je me suis intéressée en tant que... qu'organisatrice ou que partie prenante quand je suis rentrée dans le festival, ça, c'est lié complètement à mon engagement au sein de l'AMR. Donc, comme l'AMR était partie prenante et très partie prenante en 81 encore de ce festival, de par mon boulot au sein de l'AMR, j'ai commencé à travailler au sein du festival.
Quand tu dis très partie prenante en parlant de l'AMR, ça veut dire que l'AMR est donc une des associations fondatrices du festival.
Oui,
avec l'idée de quoi au point de départ? Est-ce que
alors là, je parle pour eux. Hein, je ne suis pas tout à fait sûre de représenter, mais le festival était intitulé, je crois, le sous-titre, c'était Festival d'été des associations culturelles de Genève, hein, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était de pouvoir organiser un festival, un moment où les gens jouaient et s'exprimaient. Et c'est vrai que il y avait, je dis que c'était très musical. C'est vrai qu'il y avait des interventions de théâtre. Il y a eu au Bois de la Bâtie, il y a eu du théâtre. Mais de par le plein air, de par les peu de moyens qu'il y avait, parce que je crois que les musiciens étaient payés une fois, alors qu'ils jouaient peut-être cinq fois ou six fois. Il y avait certains musiciens qui jouaient dans toutes sortes d'orchestres, mais ils étaient payés qu'une fois. Du fait que c'était un festival en plein air, avec peu de moyens, c'est vrai que c'était plus facile que ce soit un festival de musique que de théâtre, qui demande tout de suite des moyens... Mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup le théâtre de rue, des troupes comme la Lune Rouge, qui est devenue les Montreurs d'Images ou le Théâtre du Loup, à l'époque, jouaient en plein air.
Et il y avait cette idée qu'il fallait donner la possibilité aux créateurs locaux, qu'ils soient musiciens ou autres, de s'exprimer sur des scènes, voilà. Puisqu'ils ne pouvaient pas le faire ailleurs. Hein. Il y avait aussi cette idée-là, je crois, au point de départ. Camille, alors toi, tu es venue rejoindre l'aventure beaucoup plus tard. On pourrait dire qu'il y a plusieurs générations qui ont défilé à ce festival de la Bâtie. Donc toi, depuis 1995, c'est récent, t'es vraiment la jeune génération. Est-ce que tu es à débarquer comme Marie-Pierre le racontait un jour, tu es arrivée en disant « Est-ce que je peux mettre la main à la pâte ?» Quelle est ton histoire ?
C'est une opportunité, un concours de circonstances assez drôle. Je connais toujours bien Claude Ratzé, qui était à l'époque chargé justement de la communication, comme disait Marie-Pierre. Et il a décidé d'arrêter cette partie-là du travail dans la Bâtie. Et il m'a proposé de me former, que je le remplace en fait, avec Nelson. Donc le couple Claude-Dominique, qui a arrêté la communication, nous a choisi Nelson et moi pour les remplacer. Donc pendant 6 mois, il nous a formés. Donc nous, on a évidemment immédiatement dit oui. On est arrivé. Enfin moi, j'étais absolument novice dans tout ce milieu et ce métier. Et voilà, pendant 6 mois, il nous voyait souvent, il nous a formés, il nous a appris son métier. Et puis depuis, on a repris la communication les deux. Enfin Nelson maintenant arrêté, mais moi, je suis toujours là.
Concrètement, aujourd'hui, Marie-Pierre et Camille, vous êtes toujours dans l'organisation. Dominique, en l'occurrence, tu n'en es pas pour cette année, c'est ça? Qu'est-ce que ça implique, même à toutes les trois, qu'est-ce que ça implique comme travail durant toute l'année? Marie-Pierre, toi, au niveau de la programmation théâtrale, tu travailles toute l'année dans le mi-temps que tu nous as présenté?
Oui, oui, oui.
Et toi, Camille, pour la communication présentation?
Moi, c'est assez irrégulier comme travail, c'est-à-dire que pendant 5 mois, je bosse vraiment à plein temps. Après, ça passe un mi-temps, puis un quart de temps. Et puis, dans la période hivernale, c'est plutôt j'hiberne. On se voit régulièrement, tout le comité ensemble. Mais c'est vrai que décembre, janvier, comme ça, c'est assez calme. Puis ça reprend au printemps. Et puis maintenant, depuis 3 mois, c'est le gros boom pendant encore un bon mois.
Dominique, l'AMR était souvent co-programmateur, hein, c'était souvent ça le rôle de l'AMR, de proposer des choix musicaux, donc c'est plutôt du côté artistique. Ça impliquait aussi un travail à l'année?
Non, pas, en tout cas pas ces dernières années. Bon, l'AMR organise des tas de choses et c'est vrai que ces dernières années, la participation de l'AMR dans le festival était quand même réduite à quelques jours, donc ça nécessite pas un travail d'une année pour ça.
Il y a eu des années où l'AMR a fait, en tant que telle, des propositions artistiques, par exemple le Big Band, ou où c'était des artistes d'ici qui ont travaillé. Tu sais, pour la réalisation de projets comme ça, si quand on fait un projet artistique tel qu'on le présente comme proposition à la bâtie, ça nécessite ensuite un travail sur combien de temps?
Mais ça, les propositions, bon, j'imagine, je ne sais pas très bien à quel Big Band tu fais allusion, mais disons, le travail, il est du côté de l'artiste. Pour monter un spectacle, c'est l'artiste qui a besoin d'être... de pouvoir avoir du temps, soit pour composer, mais le programmateur lui-même, il a fallu discuter ou répondre à une... Mais le travail est surtout... Il faut s'y prendre assez tôt pour que les artistes puissent mener à bien leur projet.
Une programmation, Marie-Pierre, ça se fait une année à l'avance, je veux dire. C'est aussi ça qui est sous-entendu sous ma question. Quelqu'un qui vous dépose un projet de création, parlons création... Ça veut dire qu'il y pense une année à l'avance pour pouvoir vous en faire une proposition.
Oh, mais ça, c'est les artistes. C'est l'organisation. Moi, je ne me revendique pas du tout comme artiste. Je n'en suis absolument pas une.
Mais toi qui reçois des propositions. Avec ça.
Moi, j'organise parce que je crois que ça va un peu organiser. Simplement, pourquoi moi je travaille à mi-temps pour une programmation? Parce que le problème, c'est que dans le théâtre, il faut aller voir. Moi, je ne peux pas écouter le théâtre. Je ne peux pas l'écouter à recevoir une cassette. Moi, je dois me déplacer tout le temps. C'est 3-4 soirs par semaine de ma vie au théâtre. C'est un week-end sur deux où il faut aussi partir du moment où on accueille des spectacles d'extérieur. C'est un investissement. Et puis après, il y a les dossiers qu'on reprend. Et puis si des pièces, on ne les connaît pas, je les lis. Donc tout ça, c'est du temps et du temps et du temps et du temps et du temps qui devrait... Beaucoup de gens font ça pour une programmation comme maintenant elle s'élabore avec les créations locales et puis des accueils. Même si à l'arrivée, il y a 7 à 9... proposition dans le cadre d'un festival, moi je suis pas toujours très heureuse de pas pouvoir faire plus, mieux connaître les auteurs, m'instruire davantage, j'ai envie de dire. Moi je suis pas, j'ai pas la connaissance infuse comme ça, j'ai pas fait forcément les lettres, je sais pas bien. Donc moi je dois, c'est ce que j'aime dans ce travail, c'est pas dire à quelle date vous jouez puis à quelle heure, parce que ça finalement à un moment donné la grille s'organise. Le plus gros boulot pour moi c'est de comprendre les projets, c'est de lire les pièces, c'est de rencontrer les gens, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire et pourquoi ou comment, enfin pas forcément pourquoi, mais qui m'exposent, parce que simplement j'ai envie d'avoir un contact avec les gens qui vont faire les choses, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, je prends des catalogues et puis je coche, puis je téléphone aux agents, puis j'engage. Mais ça, moi, j'ai pas envie de faire ça.
Tu disais tout à l'heure, Marie-Pierre, qu'il y a une association du Festival de la Bâtie. Quel est son rôle dans toute cette histoire? Est-ce que vous en êtes membre, par exemple, en tant que membre actif de l'organisation du festival?
Alors, la Bâtie, c'est une association qui a des statuts depuis toujours, dont le but est d'organiser un festival, donc sur une période déterminée, dont avec des propositions d'art vivant de la scène pluridisciplinaire.
Et quel est son rôle dans l'organisation aujourd'hui?
Alors ça, c'est une très très bonne question parce que le comité de la bâtie, il a jamais fait, l'association n'a jamais fait de carte de membre, n'a jamais, effectivement, il n'y a pas de cotisation des membres à la bâtie. Je crois que les gens qui forment l'assemblée générale sont les partenaires du moment et le comité. Je crois que c'est ça.
Donc c'est la même chose, association et comité d'organisation, finalement, c'est
les mêmes membres. C'est un comité élargi aux partenaires du moment. Je crois que, mais parce qu'une association peut être fondée par 3 personnes et sans forcément des cartes de membres et autres. Hein.
Non,
parce
mais
qu'on
n'a
pas, on
n'a
pas l'activité pédagogique, on n'a pas un travail à l'année. On est sur un moment particulier, mais c'est une association, ça c'est sûr, parce que le statut de l'organisation est comme ça.
Tu disais tout à l'heure que l'association à sa fondation était ouverte à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui ça reste une chose vivante comme celle-ci, ou est-ce que, comme tu dis, ça se limite de fait aux gens qui vraiment sont, comme tu dis, organisateurs ou partenaires?
Sur le principe, oui, elle reste ouverte. Sur le principe, oui, oui.
Mais dans les
alors,
faits,
dans les faits, on voit bien que les gens qui viennent à l'Assemblée Générale, c'est un comité élargi. Alors, c'est peut-être des gens qui sont partis d'abord. Ce sont des gens qui ont été proches et puis qui sont plus proches, qui ne se sentent pas concernés. C'est peut-être aussi moins vivant. Alors ça, c'est peut-être un débat qu'on peut avoir et qui va sans doute avoir lieu avec l'AMR. Mais ça veut dire que c'est... l'Assemblée Générale devrait être le lieu des débats et le lieu de dire non, attends, c'est bien, c'est les bonnes positions, c'est juste de faire comme ça, ou non, vous êtes tout faux, vous avez tout faux. Bon, si les gens se sentent concernés par le festival et viennent et le disent, c'est bien. Mais les gens ne viennent pas forcément pour dire, attends, on en est où aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que, alors, c'est un concours, c'est comme ça, c'est des choses qui se sont installées, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez bien organisé. C'est vrai qu'à un moment donné, l'Assemblée Générale, elle a peut-être, elle doit être, pour moi, en tout cas, redimensionnée dans un débat. Et elle doit pas, les membres qui devraient être concernés, enfin Dominique, je suppose qu'elle va en parler beaucoup plus, beaucoup mieux que moi. J'essaye, moi, de ne pas être dans l'organisation et de me dire, je suis membre de l'Assemblée Générale. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? De toute façon, je vais aux séances et puis on me présente les comptes, c'est très bien, puis on me présente le projet, puis ça va très bien, puis salut, au revoir, merci, je vous ai vu, on a bu un verre. Et que c'est peut-être pas ça, mais je suis pas sûre que dans les autres associations, ça débatte davantage. Mais peut-être c'est un truc du moment aussi, un ensemble de choses, parce que quand on voit dans les autres associations, dont je fais partie de plusieurs associations, moi je trouve que c'est un petit peu comme ça aussi. Mais ce débat, il doit être posé, je trouve, et que l'Assemblée Générale, s'il y a des membres extérieurs et des partenaires, il faut aussi que ces gens, avec nous, nous amènent la réflexion.
Juste pour conclure ce petit chapitre sur comment vous êtes-vous chacune rentrée dans cette aventure du Festival de la Bâtie et quelle part vous y avez prise très activement. Aujourd'hui, l'équipe d'organisation du festival, que ce soit les programmateurs, le comité d'organisation, l'équipe technique, les bénévoles, s'il y en a, je ne sais pas si vous travaillez encore avec des bénévoles, les partenaires, ça représente quelle équipe, Camille? T'as une idée?
Le chiffre, combien?
Oui, un peu, en gros, quoi. Enfin, je veux dire qu'on se donne, on se rende compte à combien il faut être pour réaliser une aventure de celle-ci, donc qui dure 2 semaines et demie, en l'occurrence cette année, 26 août, 14 septembre.
Je crois qu'on est une centaine sur le festival à bosser. On est une quinzaine à l'année au comité, plus tous les partenaires autour qui travaillent sur les projets. Bénévoles, on en a quelques-uns qui font l'accueil ou bien qui ramènent les gens la nuit du Satori à la maison, les gens qui ont trop bu. Ça, c'est une toute petite partie de bénévolat. Je ne sais pas, sinon...
Je pense que ça représente une centaine.
Oui, une centaine.
Alors voilà, on va approfondir un tout petit peu la question abordée par Marie-Pierre. Effectivement, c'est les changements, l'évolution dans le festival qui correspondent aux désirs de certains, qui font titiller d'autres, qui rendent tristes d'autres. Enfin, on va aborder cette question après membre fondateur est très présent, on l'a dit tout à l'heure dans le festival, c'est la Fanfare du Loup, c'était la Lune Rouge d'abord qui est devenue les Montreurs d'Images et le Théâtre du Loup. En l'occurrence ici, c'est la Fanfare du Loup.